Bonjour à tous, on va commencer je crois. On a dit qu'on réduisait le quart d'heure Poitevin à 10 minutes ce matin. Donc merci d'être là un mercredi à 10h, ce qui est, je l'ai expliqué à notre intervenant de ce matin, tout à fait inhabituel. Et donc on mesure la motivation qui a été la vôtre pour être là comme ça ce matin à 10h. Le thème du festival Raison d'agir cette année, c'est la consommation. Mais comme d'habitude, on essaye toujours un peu de réfléchir quand on peut. Et donc, on a essayé de réfléchir à ce que pouvait être ce thème dans une approche qui était à la fois l'approche des sociologues, des historiens, des documentaristes, pour penser un peu ce qu'est la consommation aujourd'hui et comment elle impacte tout un tas de domaines de notre vie. Et comment aussi se construit notre rapport à la consommation, comment il s'est construit historiquement et comment il se construit dans la vie de tous les jours par les institutions dans lesquelles nous vivons, qui nous socialisent, qui font que nous consommons de telle ou telle manière, dans tel ou tel endroit, souvent en ignorant les conditions dans lesquelles sont produits les biens que nous achetons. Et voilà, il y a une sensibilité aujourd'hui sur la consommation réelle qui concerne à des degrés divers la population, mais qui existe. Pour autant, on n'a pas toujours conscience de toutes les implications, de tous les liens qui nous unissent à l'économie, à l'échelle du monde. Et on n'a pas toujours de prise aussi sur ce qui peut être fait. Alors, il y a tout ce qui est expérience. La place sera faite à cela hein, pendant le festival, les circuits courts, les nouvelles manières de s'organiser de manière coopérative, ou les anciennes manières, toujours d'actualité. Donc tout sera mis en débat, mais on a voulu aussi porter plus loin la réflexion en s'intéressant à la manière dont les différents groupes sociaux consomment et voient la consommation, en regardant comment dans l'histoire le phénomène a été abordé, et en voyant les liens économiques à l'échelle du monde que pose la question qui va nous intéresser pendant 3 jours. Voilà un peu. Et donc on commence aujourd'hui par une journée qui a été co-construite avec la CGT, la FSU et Solidaire, ouverte à la formation syndicale. On sait que le droit à la formation syndicale n'est pas forcément très utilisé, qu'il n'est pas facile à utiliser, donc on savait d'emblée qu'on n'aurait pas des centaines de salariés qui se précipiteraient en utilisant le droit à la formation syndicale. Mais ça nous paraît important de creuser ce sillon-là aussi, et de le faire en lien avec des syndicats de sensibilités différentes, même si on sait qu'ils sont, comme nous, intéressés par la construction d'une économie différente, mais de manière sans doute diverse. Voilà. Donc cette journée a été construite avec eux, et ce matin, nous accueillons plus particulièrement donc Julien Rivoire, dont va nous parler Patrick, et puis Patrick Lenné, qui est syndicaliste SNES ici dans la Vienne, voilà, pour notamment aborder la question des traités transnationaux, qui est une question à la fois importante parce qu'elle révèle beaucoup de choses de l'économie mondiale et en même temps qui est un objet de lutte important. Voilà, donc on commence par ça et puis ça continuera cet après-midi avec la réflexion sur le consumérisme et les politiques d'exploitation, d'intensification du travail dans les services publics, et puis ensuite Anne Jollet sur l'histoire, et ce soir Geneviève Azam, qui est également d'attaque et économiste à Toulouse. Donc Patrick.
Merci Bertrand, bonjour à toutes et tous. Je représente la FSU 86, mais je suis aussi avec Julien au bureau national de la FSU, ce qui fait que quand Bertrand m'a demandé de trouver quelqu'un qui avait des compétences pour parler du TAFTA et du CETA, j'ai tout de suite pensé à mon camarade Julien et qui va vous en parler parce que lui s'occupe des questions liées à ces traités et membre du conseil d'attaque pour la FSU. Voilà ce que je voulais vous dire et bien entendu on répondra ensuite à toutes les questions que vous vous poserez quand il aura exposé ces deux aspects sur les traités. Donc je te laisse la parole, à moins que tu veuilles rajouter un petit quelque chose.
Non, c'est bon. Merci, ça fonctionne. Bon, donc, non, je rajoute rien sur... si ce n'est que qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas un spécialiste du libre-échange. Par ailleurs, moi, je suis enseignant en IUT carrière sociale, enseignant de sciences économiques sociales. Je suis militant, donc effectivement syndicaliste. Et à ce titre-là, c'est cette entrée-là qui fait que je m'intéresse, ou en tout cas je milite sur les questions de libre-échange depuis un certain temps, hein, même avant effectivement la FSU, aux grandes heures du mouvement altermondialiste aussi. Voilà, et donc la FSU avec Solidaires, la CGT, ATTAC, et bien d'autres organisations associatives, syndicales et politiques, effectivement depuis 2-3 ans maintenant, ont remis au goût du jour, j'allais dire, la lutte contre le libre-échange via la lutte contre le TAFTA, le traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, puis, j'y reviendrai, ces derniers mois, contre la ratification du traité Union européenne-Canada, le CETA. Voilà. Et c'est un peu, alors que pendant... la fin des années 2010, quoi, enfin, depuis 2005, les questions de libre-échange étaient peut-être moins au cœur de nos activités. Elles ont repris, mais parce que aussi nos opposants, nos ennemis, eux, ont avancé de leur côté. Alors, pour introduire la discussion, le débat, moi je vais revenir un peu de manière très générale sur les logiques du libre-échange. Voilà, peut-être que pour un certain nombre, vous apprendrez strictement rien, mais je pense qu'il faut recadrer ça. Et puis, pour insister dans un second temps sur les nouvelles dynamiques de libéralisation et ce qu'on appelle les accords bilatéraux. Voilà. Et en quoi il y a une nouveauté depuis de logique et de stratégie des libéraux depuis 5 à 10 ans, voilà, qui ont délaissé les accords multilatéraux. On essaiera de voir pourquoi les traités dans le cadre de l'OMC, pour essayer de développer des accords bilatéraux avec des logiques aussi géopolitiques particulières. Pour en préciser ensuite et illustrer un peu les enjeux pour les salariés, les consommateurs, de traités tels que notamment le CETA, mais on pourrait voir avec le TAFTA les mêmes logiques. Et enfin, je finirai sur quelques pistes, ou en tout cas quelques enseignements, quelques questions surtout, puisqu'on n'a pas de solution magique, mais sur comment combattre ces traités, quelles sont les pistes, les difficultés qu'on rencontre, etc. Voilà. Alors, les logiques du libre-échange, les objectifs officiels, vous les connaissez, il suffit d'allumer la radio et d'écouter, que ce soit la gauche sociale libérale ou la droite libérale. Voilà. Hollande l'a encore expliqué il y a ne serait-ce qu'un an avec le TAFTA, puisque c'était un des promoteurs et des fervents défenseurs du traité transatlantique avec les États-Unis, même s'il a reculé par la suite. Et puis alors là, avec et donc la social-démocratie, le social-libéralisme français a été parmi les plus ardents défenseurs du traité Union européenne-Canada. Pourquoi ? Parce qu'il nous explique que ces traités vont permettre de créer des emplois, de relancer la croissance. C'est la solution pour sortir de la crise. Bon, alors, d'une part, on sait bien que les prévisions en économie sont très difficiles à tenir. Donc, il n'y a pas forcément d'arguments pour étayer leurs affirmations. Mais on a, nous, de notre côté, un certain nombre d'arguments pour montrer que c'est un peu plus compliqué que ça, ne serait-ce que notre expérience. L'expérience de l'ALENA, par exemple, de l'accord de libre-échange nord-américain entre Canada, États-Unis et Mexique, on a un petit peu de recul, et c'est, selon les études, entre 800 000 et 1 million de destruction nette d'emplois. Donc le libre-échange en tant que tel ne crée pas d'emplois. Et si le libre-échange et cette logique étaient là pour créer réellement des emplois, les travailleurs européens qui vivent dans une zone marquée par la logique de libéralisation, que ce soit tarifaire ou non tarifaire, ne connaîtraient pas des taux de chômage aussi élevés. Bon, les objectifs réels, bien entendu, ne sont pas ceux-là. L'objectif du libre-échange, principalement, c'est de chercher à accéder au marché des autres pour faire du profit pour les multinationales, mais également pour permettre de déverser le surplus d'une marchandise qui n'arrive pas à trouver sa demande dans des pays, alors notamment dans la dernière période, dans des pays où la demande peut être compressée par les politiques d'austérité. Ça, c'est d'un point de vue macro. Pour les multinationales, l'enjeu du libre-échange, c'est de faire pression à la baisse sur les facteurs de production et sur le travail, principalement, par un chantage à la concurrence internationale. Je ne vais pas développer, vous voyez bien les mécanismes et comment depuis 30 ans on nous explique qu'il faut réduire le coût du travail, il faut assouplir les règles du travail parce que sinon vous comprenez bien les entreprises elles vont aller voir ailleurs etc etc et donc on va fermer des entreprises etc. Bon, et puis donc ça c'est d'un point de vue économique, les objectifs j'allais dire du libre-échange c'est principalement, c'est uniquement pour les fractions dominantes du capital et notamment les fractions j'allais dire financières et transnationales qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt aussi géostratégique et c'est aussi important ça pour comprendre aussi la nouvelle logique bilatérale, c'est que l'Union européenne et les États-Unis sont les plus dynamiques ces dernières années dans leur velléité à construire et à mettre en œuvre un certain nombre de traités bilatéraux. L'Union européenne est un contrairement à parfois l'image qu'on peut avoir ou l'idée qu'on peut avoir notamment dans les univers de gauche où les grands libéraux c'est les États-Unis. Non, l'Union européenne et y compris sur le TAFTA les plus, et on l'a vu avec des fuites qui sont sorties etc. C'est l'Union européenne qui était la plus velléitaire, la plus dynamique, la plus motivée pour construire et pour avancer sur le TAFTA. Bon, et l'Union européenne développe un certain nombre d'accords bilatéraux. Le CETA a été présenté et ratifié au Parlement européen, j'y reviendrai, mais on parle peu des accords libéraux de libéralisation avec l'Afrique. Il y en a un autre qui va arriver, qui est avec le Japon, et il y a une négociation avec le Mercosur qui se met en œuvre. Bon, les États-Unis, bien sûr, ne sont pas en reste. Alors pourquoi cette dynamique de traité, et je disais c'est aussi des objectifs géostratégiques, l'objectif principal c'est de contourner de nouveaux acteurs sur la scène internationale et principalement la Chine et de l'encercler, ou en tout cas de construire aussi des alliances qui permettent de faire perdurer la domination de ces puissances capitalistes. Bon, mais aussi d'éviter donc la Chine comme nouvel acteur à contourner. Et deuxième raison de la multiplication de ces accords bilatéraux, c'est d'éviter la coalition des pays émergents qui aujourd'hui peuvent avoir des intérêts convergents. Et c'est une des raisons qui explique la stagnation de la dynamique des accords multilatéraux dans le cadre de l'OMC. Dans le cadre de l'OMC, on en viendrait presque à regretter, alors qu'on s'est construit le mouvement altermondialiste contre les accords négociés au sein de l'OMC, mais l'OMC, par rapport aux accords bilatéraux, avait l'avantage de nécessiter l'accord de l'ensemble des pays. Alors on sait bien que les relations impérialistes, de domination, etc., font qu'on peut tordre le bras à un certain nombre de pays. Et c'était le cas dans l'OMC, notamment ce qui a permis au cycle de négociations appelé Uruguay Round, qui est le cadre qui aujourd'hui définit l'OMC, qui a été mis en place par un accord Union européenne-États-Unis et imposé de fait aux pays émergents. Mais depuis les années 90, il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui, on pense aux BRICS, enfin, à la Chine, au Brésil, à l'Inde, etc., qui ne sont pas tout à fait dans la même situation et qui sont en capacité aussi de s'opposer aux diktats des puissances que sont l'Union européenne et les États-Unis. Bon, et donc, une des raisons des blocages de l'OMC tiennent avant tout au blocage effectué par l'Union européenne et les États-Unis aujourd'hui, qui ne veulent pas de ce cadre multilatéral parce qu'ils ont à se confronter à des exigences ou à des revendications de pays émergents ou en voie de développement, comme on dit. Bon, les traités bilatéraux permettent justement de contourner ces difficultés. Les traités bilatéraux peuvent aussi avoir un effet d'entraînement intéressant. C'est aussi pour cela que les multinationales vont les pousser. Prenez l'exemple d'un traité dont les négociations sont suspendues, mais j'y reviendrai peut-être dans la discussion. Je ne pense pas que ce traité soit mort. C'est le traité, le TAFTA ou le TTIP, Union européenne, États-Unis. Si vous ajoutez Union européenne, États-Unis, c'est 850 millions de consommateurs. Donc en soi, c'est un marché imposant, important. Mais c'est aussi 50% du PIB mondial actuellement. Une des motivations pour les multinationales, c'est au-delà même du marché, c'est de faire de ces traités bilatéraux, et notamment c'était pour ça qu'ils poussaient sur le TAFTA, d'en faire un modèle pour les autres, et de parier sur un effet d'entraînement et de dynamique, hein, de traités bilatéraux qui permettent en fait d'imposer et d'universaliser ce modèle de libéralisation. Bon, c'est la même chose avec le CETA, dans une mesure moindre, mais il faut bien comprendre que le CETA, ça peut être la porte d'entrée pour le marché américain, enfin états-unien, tout comme ça peut être la porte d'entrée pour le marché de l'Union européenne, pour les multinationales états-uniennes. Un accord Canada-Union européenne, c'est ce qui permet aux filiales des multinationales états-uniennes d'accéder plus facilement au marché de l'Union européenne sous les conditions de l'accord tel qu'il est signé. Alors, quelles sont ces conditions et qu'est-ce que c'est qu'en fait, concrètement, un accord de libre-échange? Comment il fonctionne et quels sont les dangers pour... Je reviendrai sur trois aspects, on pourrait développer, mais sur l'alimentation, les services publics notamment, et quels sont les dangers de ces traités concernant notre démocratie. Alors pareil, peut-être que je vais rappeler pour un certain nombre d'entre vous un certain nombre d'arguments que vous avez entendus, puisque, encore une fois, et fort heureusement, on ne démarre pas les campagnes sur ces questions-là. Les traités de libéralisation comportent en fait deux volets. Il s'agit de supprimer les barrières à la fois tarifaires et ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. De fait, les barrières tarifaires, c'est les droits de douane, c'est pas forcément l'axe central, même si c'est pas négligeable. Hein. C'est davantage sur la question des normes qu'il y a des enjeux très forts, c'est-à-dire que c'est les normes sanitaires, c'est les normes, c'est les manières de produire, ça peut être les normes sociales, etc., qui vont être mises en œuvre et qui vont être discutées dans ces accords-là. Bon, à chaque fois, bien entendu, il s'agit de les simplifier, mais toujours à la baisse. Enfin, à la baisse pour, ça dépend tout du point de vue, hein, à la baisse pour les salariés, à la hausse d'un certain point de vue pour les multinationales, en tout cas dans leurs intérêts. Bon. Bon, alors quelques exemples du CETA. Le CETA, donc l'accord UE-Canada, qui a été ratifié le 15 février dernier par le Parlement européen. Donc, il est mis en application, on est sous le régime du CETA, pour à peu près 95% de son contenu. avant même que les parlements nationaux le ratifient. C'est-à-dire qu'il y a une clause dans ces accords, c'est formidable. Il y a quand même des gens qui sont payés pour inventer des choses formidables. Il y a une clause qui permet une application provisoire. Bon, c'est une nouveauté, on ne sait pas du tout, y compris on est incapable, et pas grand monde, y compris à Bruxelles, est capable de nous dire ce qui se passerait réellement si la France demain, ou l'Allemagne, ou la Wallonie... ne ratifiez pas le CETA. Bon, y compris, moi c'est mon point de vue, mais il y a des débats dans le collectif, et puis on verra bien. Mon point de vue, c'est que je ne vois pas leur intérêt à de toute façon accélérer la ratification nationale. Bon, on verra bien, hein, peut-être que le prochain gouvernement français va le 15 août ratifier rapidement au Parlement pour se débarrasser de ça, mais de fait il est en application provisoire pour les multinationales. Bon, les principales dispositions sont à l'œuvre. Bon. Alors très concrètement, je ne vais pas non plus vous abonder de chiffres ou de données, mais pour un peu illustrer, qu'est-ce que pour l'agriculture ça change le CETA, c'est plus ça va changer, mais ça change. C'est la première fois que je fais une intervention depuis le 15 février, donc d'habitude j'avais l'habitude de parler au conditionnel, mais pour l'instant on a perdu, voilà. Ce qui ne veut pas dire, j'y reviendrai, qu'on a perdu la guerre, hein, mais on a perdu cette bataille. Sur l'agriculture, donc deux volets, hein, qui sont touchés, les droits de douane et les normes, les réglementations. Sur les droits de douane, très concrètement, c'est à terme, parce que ça peut, il y a un projet, enfin, ça doit avancer dans les mois et les années qui viennent de négociations, etc. Mais à terme, c'est 99% des droits de douane qui doivent être supprimés concernant l'agriculture, donc l'ensemble des produits agricoles entre le Canada et l'Union européenne, avec des volumes, hein, qui sont concernés. Je vais vous donner l'exemple de la viande bovine. Il y a seulement la viande, la volaille et les œufs qui sont exclus du traité. Sinon, l'ensemble des produits agricoles sont concernés par la fin des droits de douane. Alors, il y a un engagement de l'Union européenne en termes d'importation de viande porcine, hein, c'est ça dans le traité, il y a des engagements en termes de viande porcine et bovine. On sait tous et toutes que le secteur de la viande porcine est en crise majeure. Il y a une surproduction en France. Il y a des exploitations qui ferment régulièrement. On a vu les mobilisations. Bon, voilà. Mais donc on va importer, et donc un engagement d'importation de 65 000 tonnes par an de viande avec un droit de douane nul. Aujourd'hui, l'Union européenne importe 3 000 tonnes. Vous voyez, 3 000 tonnes aujourd'hui, engagement avec le CETA, 75 000 tonnes par an de viande avec un droit de douane nul. Donc, effectivement, en France en tout cas, et même, c'est pas que la Confédération paysanne, y compris la FNSEA, ne sont pas, qui peuvent, la FNSEA qui peut, agro-business, etc., qui peut être très motivée par un certain nombre d'accords de libre-échange, et notamment avec l'Afrique. Mais là, effectivement, il n'y avait pas grand monde pour soutenir ça, mais c'est passé. En tout cas, ça a été intégré. Donc ça c'est pour ce qui est des normes tarifaires supprimées, mais bien entendu, et ça vous avez peut-être entendu parler, c'est la question réglementaire des normes sanitaires notamment qui est en question, savoir qu'est-ce qu'on va manger dans notre assiette, sachant que les normes ne sont pas les mêmes au Canada. La majeure partie de la viande produite, c'est de la viande aux hormones, hein, ce qui est interdit chez nous. Bon, alors est-ce que dans le CETA ça nous permet de ne pas accepter de la viande aux hormones, en tout cas avec le CETA, est-ce qu'on va avoir de la viande aux hormones? Eh ben, je suis en incapacité de vous le dire, c'est-à-dire que dans le CETA rien ne nous dit que ça sera accepté, mais rien ne nous dit que ça sera interdit, l'importation de la viande aux hormones. Pourquoi c'est pas clair? Parce que il y a un chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui est justement sur cette question, totalement silencieux. Hein. Et il y a un mécanisme sur lequel je reviendrai sur la question démocratique. Il y a un mécanisme qui risque de faire évoluer les choses et de préciser. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de coopération et de dialogue et de coopération. Le mécanisme de coopération et de dialogue, pardon. C'est une instance qui va faire évoluer le. C'est un alien, ces traités, quoi. C'est des traités qui vont évoluer dans le temps. Il y a des instances de coopération réglementaire qui vont se réunir. On ne sait pas trop. Avec c'est pas des élus hein, qui vont travailler, c'est des hauts fonctionnaires, etc., qui vont se réunir régulièrement et qui vont faire évoluer les traités. C'était la même chose dans le TAFTA, hein, qui s'est prévu, qui vont faire évoluer le traité pour faire avancer la convergence des règles et des normes. Bon, tout ça dans l'opacité, bien entendu, la plus totale. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire on mangera de la viande aux hormones importé, mais on ne peut pas dire qu'on a les garanties qui nous permettent de nous prémunir de ce risque-là. Bon. Ça va être un peu la même chose sur les services publics. Bon. Le CETA vise à élargir les engagements qui sont déjà contenus dans l'accord général sur le commerce et les services hein, qui a été signé dans le cadre de l'OMC, mais avec une différence majeure. C'est encore une innovation de ces traités dits nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on travaille sur ce qu'on appelle une liste négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les traités ancienne génération, traités de libéralisation, dans le cadre de l'OMC, c'était des listes positives. C'est-à-dire que chaque État disait... Moi, je suis pour qu'on libéralise ou qu'on mette à la concurrence l'agriculture. Ben, moi, je suis pour qu'on mette à la concurrence le service de distribution de l'eau ou de l'énergie. Ah, moi, je ne veux pas qu'il y ait la culture, exception culturelle. Ça, c'est la France qui revient là-dessus parce qu'elle a des intérêts. Hein. C'est pas juste... Bon. On pourra en revenir. C'est quand même avec des logiques d'intérêts financiers et économiques. Voilà. Mais donc, on savait quels étaient les secteurs mis en cause. Dans les accords nouvelle génération, c'est des listes négatives, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas écrit est soumis à, libéralisation. Y compris des secteurs ou des domaines qui ne sont pas aujourd'hui clairement connus ou régulés. Autour des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, la question, il y a plein de questions. On ne sait pas forcément dans 10 ans, dans 20 ans, comment l'économie va être structurée, etc. Et donc, tout ce qui n'est pas écrit est libéralisable. Enfin, libéralisable. En tout cas, soumis à, y compris aux discussions.
Ils ont même une formule, list it or lose it.
Oui.
C'est-à-dire, dans le traité, c'est écrit ce qui n'est pas listé, list it, est perdu, lose it. C'est carrément écrit, quoi.
Bon, et alors, non, mais tu as raison. Et juste pour. Je ne vais pas vous les lister tous. Vous pouvez trouver plein d'informations en français traduites et des synthèses, puisque ces traités, ils font 1300 pages à peu près, anglais. C'est avec une novlangue incompréhensible, etc. Donc il y a des gens qui ont travaillé dans des ONG, etc. Vous trouvez pas mal de choses sur le site d'ATAC France et aussi sur le site de l'ETEC, qui est. Association internationale de techniciens, experts et chercheurs. Bon, ceux qui s'intéressent, je vous donnerai les références. Mais vous trouvez, vous tapez ETEC et puis vous retrouverez. Et donc là, il y a eu des rapports un peu plus denses. Bon, ce qui est intéressant, c'est toujours par rapport à, pour comprendre aussi les logiques. Ce qu'il faut voir, c'est que la France n'a pas été particulièrement protectrice. C'est-à-dire que l'Union européenne a donné un certain nombre de secteurs à protéger, mais également les États pouvaient en rajouter. Bon. Et donc, quand on regarde en détail, la France a, sous un gouvernement socialiste, je rappelle, avec qui était la négociation dirigée par Matthias Fekl, qui est maintenant ministre de l'Intérieur. Bon, la France n'a pas été particulièrement protectrice. Ouais, vigilant, tu t'es gentil.
Moins que l'Allemagne dans certains domaines. C'est ça
peu de réserves. Donc, qu'est-ce qu'ils ont réservé? Je ne vais pas tous les prendre, mais au niveau Paris, donc a réservé les services de gestion de l'emploi et du placement de personnel, qui demeurent l'objet d'un contrôle total de l'État, donc Pôle emploi. Les activités de surveillance, cryptage, défense et armement sont entièrement exclues. On n'est pas encore sous le règne de l'ultra-libéralisme. Il n'y a pas grand-chose. Le contrôle maintenu sur le secteur des laboratoires d'analyse de tests scientifiques, des réserves sur les secteurs sociaux financés par le privé. Bon, il y a quelques-uns comme ça. La France réaffirme le contrôle à 100% des secteurs de transport d'électricité, de gaz, de construction et de gestion d'oléoducs et de gazoducs. Préserve le monopole d'EDF dans la distribution d'électricité, par exemple. Bon. Mais rien sur les services privés d'ambulance et d'établissements de santé, par exemple. Alors que la Belgique, la République tchèque l'ont mis, par exemple, là-dessus. Rien sur l'éducation privée supervisée ou reconnue par l'État. Hein, donc, la France met ça au pot commun. Il n'y a pas de problème. Les entreprises canadiennes pourront se mettre sur le marché. Rien sur l'ensemble de l'éducation privée à tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire et adulte, sur l'ensemble des services sociaux fournis par des opérateurs privés. La Roumanie a bloqué. Pourtant, la Roumanie, ce n'est pas non plus un gouvernement particulièrement progressiste. Sur la gestion du système de sécurité sociale, rien. Lorsqu'il implique des entités ou des acteurs économiques qui ne relèvent pas exclusivement de l'autorité gouvernementale. Donc, tout le système des mutuelles, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Rien sur la distribution des produits pharmaceutiques. La Finlande a bloqué. Sur la gestion des systèmes de sécurité sociale, l'Allemagne a bloqué, a dit non, on ne le met pas au pot commun, on ne discute pas. Bon, voilà. Donc, de fait, sur ces secteurs, la France a renoncé à mettre des limitations et intervenir sur la réglementation de l'intervention des entreprises canadiennes. Bon. De fait, si je résume, l'eau, l'énergie, le transport, le courrier, l'éducation d'une certaine manière, la santé et la culture sont aujourd'hui l'objet d'un service universel en Europe, mais pas d'un service public, donc ça crée un flou, y compris qui peuvent être donc qui sont financés par l'État, mais dans ces secteurs existent des concurrents privés. Or, dans le CETA, dès qu'il y a existence de concurrents privés, il y a possibilité d'ouverture à la concurrence. Et donc, les entreprises canadiennes, welcome, vous êtes bienvenus pour rentrer sur ces marchés, et y compris pour que le mécanisme de coopération réglementaire s'intéresse et fasse évoluer à la baisse les réglementations sur ces questions-là. Bon. C'est un des derniers enjeux, mon avis, même peut-être l'enjeu majeur, en tout cas en France, c'est ce qui a le plus fait, ce qui a le plus mobilisé ou interpellé, c'est l'enjeu démocratique. C'est-à-dire, bien entendu, on a envie de savoir ce qu'on mange dans notre assiette. Bien entendu, on veut savoir comment on peut défendre nos services publics. On veut savoir si on peut remunicipaliser la distribution de l'eau, etc. Bon, ça, je vais y venir. Le CETA est un obstacle. Par exemple, peut être un obstacle potentiellement à la remunicipalisation de l'eau dans un certain nombre de cas, bien entendu. Mais derrière tout ça, c'est la question, et c'est lié, c'est la question démocratique du choix, de la souveraineté populaire, de comment on peut décider ensemble de la production, de ce qu'on mange, de comment on produit, etc. etc. Bon. Et bien entendu, dans ces traités, le scandale démocratique est total. Il est total dès la conception, c'est-à-dire qu'il y a aucune transparence sur la construction de ces traités. Les négociations, tous les députés européens n'avaient pas accès aux négociations. ça a fait, enfin, il n'avait pas, aucun d'ailleurs, n'avait accès. C'était négocié par la DG Commerce, la Direction Générale du Commerce, donc ce n'est pas des élus, hein. Il n'y avait pas diffusion. Et tout ça a été légitimé par la Commission pour le TAFTA et pour le CETA, alors notamment pour le TAFTA, parce que c'est là-dessus que ça a gueulé, en disant oui, mais vous comprenez bien, on ne peut pas dévoiler notre stratégie aux États-Unis, notre stratégie de négociation. Bon. Manque de bol, c'est que c'est au même moment où Wikileaks a dévoilé que Merkel et l'ensemble des responsables et des premiers des présidents ou les responsables des premiers responsables au sein de l'Union européenne étaient sur écoute de la NSA. Donc en termes de sécurité de négociation, on repassera. Donc, la réalité, bien entendu, c'est pas qu'ils cherchaient à avoir un temps d'avance sur leurs négociateurs états-uniens, mais bien entendu ne rien dévoiler au peuple européen pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et en toute sérénité. Bon, ensuite, suite à la mobilisation populaire hein, dans plusieurs pays, ils ont cédé la possibilité que quelques députés donc sélectionner un peu des représentants de chaque groupe, puissent accéder régulièrement dans une chambre fermée du Parlement européen sans rentrer avec aucun ordinateur, aucun téléphone, rien. Donc un stylo, un papier, ils avaient le droit de rentrer dans cette salle pour consulter. Donc, vous voyez bien, même les députés, enfin, je pense à Jadot ou à quelques députés PS qui étaient anti-TAFTA ou anti-CETA, ils disaient, mais dans quelles conditions on peut faire le boulot pour vous donner les sources, quoi. Ils n'avaient pas ces possibilités-là. Bon. Et puis ensuite, ça c'est traditionnel dans l'idéologie ou le travail néolibéral, c'est de sortir des rapports imbitables, hyper compliqués, avec un langage qui n'est pas du tout transparent, quoi, et qui ne permet pas... aux citoyens de se saisir de cette question-là et qui permet surtout aussi à nous, organisations de la société civile, de passer un temps pas possible déjà à décrypter, à comprendre, etc. Mais bon, ça c'est... je pense que c'est pas une petite question hein, sur les difficultés qu'on a à lutter aussi vis-à-vis de ces enjeux. Bon, donc aucune démocratie bien sûr dans la Constitution et puis deux problèmes démocratiques majeurs dans ces traités de nouvelle génération. Le règlement des différends, ça vous en avez peut-être aussi pas mal entendu, c'est un peu un des enjeux qu'on a mis en avant, c'est le fait que les multinationales peuvent porter plainte contre des États. Par exemple, je prenais la question de la municipalisation, la remunicipalisation de l'eau. Imaginons une entreprise, alors c'est pour les salariés, pour les consommateurs canadiens par exemple, parce que c'est surtout par exemple Veolia qui peut être très intéressé par ça. Veolia qui bénéficie d'un service de distribution de l'eau à Montréal, mettons, hein, demain, il gagne ça, ça change de majorité à Montréal, la nouvelle majorité, 5 ans après, dit mais en fait on veut remunicipaliser parce que ça nous coûte moins cher, ça nous permet, enfin voilà, pour X ou X raisons, c'est un choix politique, etc. Veolia peut porter plainte dans un tribunal arbitral qui est une instance juridique privée avec des avocats privés, des juges privés, pour porter plainte contre le Canada. Via Montréal, via le Canada, en expliquant, en justifiant du fait que la décision contrevient à ses investissements et à ses profits, à sa profitabilité. C'est-à-dire qu'on va faire payer des décisions politiques. Hein. Alors, ça existe déjà, quelques exemples. En Argentine, j'en ai d'autres sur... c'est en 2012... Vattenfall, qui est en fait une entreprise suédoise, parce qu'en fait, ces types d'accords, ils existent à des échelles moindres, mais qui est une entreprise qui travaille dans le nucléaire, porte plainte suite à la fermeture contre l'Allemagne, suite à la fermeture de deux centrales nucléaires dans lesquelles ils avaient investi. Ils demandent 4,7 milliards d'euros de compensation. Bon, le procès est en cours, etc. Philippe Maurice porte plainte contre l'Uruguay et l'Australie suite à des lois anti-tabac. Il recule devant rien. Mais vous voyez la logique de privatisation de la loi, de la privatisation de la politique, de la souveraineté populaire, etc. là, on a un scandale pur. Bon. Et puis, dernier argument, ou en tout cas, dernier enjeu démocratique, c'est ce que j'ai évoqué sur la question du mécanisme de coopération réglementaire. Cet espace qui fait que, un, ces traités qui sont adoptés quand même à la hussarde sans réellement consultation, information des citoyens, etc., ces traités qui sont auto-alimentés par des experts, entre guillemets, des spécialistes, des gens qui sont en aucun cas élus, qui vont faire évoluer et rapprocher les coopérations réglementaires. Quand je dirais coopération réglementaire, ça peut toucher le droit du travail. Voilà. Les États-Unis ne sont pas signataires d'un certain nombre de règlements de l'OIT. Bon, donc, même si dans le TAFTA, en tant que tel, quand il est adopté, enfin, j'y reviendrai parce que là, il est, je l'ai dit, suspendu, mais ce type de... On peut signer des accords qui ensuite vont évoluer et faire apparaître de nouveaux problèmes. Bon, je finirai pour être, c'était déjà assez long, mais sur quelques pistes ou en tout cas quelques réflexions sur comment combattre cette hydre à mille têtes ou en tout cas cette dynamique libérale. Ça peut être dans la discussion d'ailleurs, hein. On peut attendre et se dire que bon, il y a des dynamiques intercapitalistes et internes aux capitalistes qui font que le libéralisme peut pas se réguler, mais que on peut rentrer dans une nouvelle période. Bon, moi, je pense que pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments, mais l'apparition d'un Trump, le Brexit, etc., sont à mettre dans la discussion. Voilà, c'est là. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une nouvelle période qui s'ouvre? Bon, ça c'est un élément. Mais avant de trancher sur cette question-là, c'est de savoir comment nous, société civile, mouvements sociaux, syndicaux, etc., on arrive à développer une dynamique qui met un terme à cette dynamique de libéralisation. Bon. Alors, il me semble qu'il faut articuler plusieurs choses. Un des éléments, c'est ce qu'on a essayé de construire au niveau européen et en France, c'est d'articuler à la fois des axes de mobilisation, de sensibilisation très généraux, mais en tout cas qui interpellent l'ensemble de la société. C'est la question de la démocratie, par exemple. Mais ça peut être aussi, j'en ai pas parlé, mais ça peut être l'enjeu du climat, voilà, parce que ça peut être aussi dans la discussion, hein, mais... entre le TAFTA et le climat, il faut choisir. Entre le CETA et le climat, c'est pareil. Être constamment dans la course effrénée au libre-échange quand on signe la COP21 et on se satisfait de cet accord historique de la COP21 qui ne dit rien sur la question du transport, enfin qui ne dit rien sur la question en tout cas du commerce international, et que dans le même temps son propre gouvernement, je parle de François Hollande, dans le même temps, enfin dans la même période, travaille à la signature du CETA. Je sais pas comment, voilà, on va pas le qualifier, mais au pire c'est de l'hypocrisie, enfin au mieux c'est de l'hypocrisie. Donc travailler sur des axes de mobilisation qui permettent une mobilisation, j'allais dire, citoyenne large, mais également articuler ça avec une illustration, un travail de mobilisation secteur par secteur. C'est les salariés dans différentes branches, c'est la question de l'agriculture. Il y a eu un travail de fait, par exemple, en Allemagne, en direction des libraires. On a appris ça, mais qui a eu un vrai succès, parce que les libraires se voyaient effectivement concernés. Et il y a eu une vraie mobilisation. Et un libraire, bah, c'est comme... voilà, c'est aussi une ressource de diffusion militante importante. Voilà. Et chaque libraire, ils avaient en Allemagne leur petite affichette sur leur porte d'entrée pour dire pourquoi ils étaient contre le TAFTA, etc. Bon. Bon, dans ce travail-là, il faut faire un travail explicatif, dévoiler les contre-vérités, mettre en lumière les intérêts en jeu, c'est Suzanne George qui dit, en général, qui dit, Data, qui dit qu'il faut mettre en œuvre la stratégie Dracula, c'est-à-dire mettre la lumière sur le vampire pour le détruire, quoi. Donner à voir à l'ensemble des citoyens les enjeux cachés pour construire une mobilisation et travailler bien sûr la convergence d'intérêts entre les salariés, les consommateurs, etc. Mais également, et parce que c'est une des difficultés, travailler le lien internationaliste, la solidarité entre les salariés, les consommateurs des différents pays, notamment dans une période où sur ces questions-là, on a de faux amis et je pense notamment à la droite nationaliste et l'extrême droite qui, sur ces traités de libre-échange, construisent une mobilisation, mais pas avec les mêmes enjeux, en tout cas pas les mêmes principes que nous. Bon, et la meilleure réponse, elle est dans l'action concrète, c'est-à-dire que nos luttes, elles doivent être internationalistes et donc elles doivent être menées de concert quand c'est sur le CETA avec les syndicalistes canadiens, avec des associations militantes canadiennes, quand c'est sur le TAFTA avec des salariés et des associations états-uniennes, quoi. Et parce que nos ennemis sont bien communs, enfin voilà, je qu'il y ait besoin de faire le topo là-dessus. Mais c'est un des enjeux majeurs sur cette question du libre-échange, parce que c'est une des difficultés. Une des difficultés, c'est de mettre en avant les cibles. Nos cibles, bien sûr, c'est les multinationales qui profitent de cela, mais la cible, j'allais dire secondaire, non, qui n'est pas secondaire, qui est au même niveau, c'est ceux qui mettent en œuvre ces traités. Bon, et ces traités, mais comme dans le cadre de l'OMC, ces traités, ils tombent pas du ciel. Ils sont travaillés par des lobbies, bien entendu. Ils sont alimentés par des lobbies à l'Union européenne, etc. Mais ils sont mis en œuvre par des responsables politiques. Et donc, c'est bien nos élus et nos représentants politiques qu'il faut cibler et qu'il faut mettre sous pression. Bon, c'est le travail qui a été fait sur la ratification du CETA. Pour la petite histoire, on peut avoir... la petite victoire qu'on veut, c'est une défaite, hein, puisque on le savait, le Parlement était a priori de toute façon très fortement défavorable à nos positions et donc plutôt favorable à la ratification, ça a été le cas. Mais il y a une majorité de députés français qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. C'est quand même lié à la mobilisation et on a été aidé par le contexte. Bien entendu. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire une mobilisation de pression sur les députés à quelques semaines ou quelques mois d'une élection présidentielle. Bon, voilà, l'ensemble des députés PS, par exemple, sont opposés au CETA, alors que je vous l'ai dit, la France, sous un gouvernement socialiste, a été un des acteurs majeurs. Voilà. Mais en janvier, février, la situation interne avait changé. Donc, voilà. Mais on joue sur les contradictions et puis tout ça était lié aussi grâce à la mobilisation. Donc travailler sur les cibles. Et enfin, dernier élément, et c'est aussi un enjeu de discussion et de difficulté, parce que de difficulté, c'est réussir à travailler sur les alternatives. Se dire contre le libre-échange, vous savez bien quelle est la réponse qu'on nous fait. Ok, vous voulez pas du libre-échange, mais alors c'est quoi? Vous voulez repli sur vos frontières? C'est le protectionnisme. Moi, je pense pas que le protectionnisme soit un mauvais, soit un gros mot. Voilà. Il faut savoir protéger, mais ça veut dire protéger quoi et protéger qui? Et que le protectionnisme, c'est pas forcément la fermeture de ses frontières vis-à-vis des personnes, mais c'est une régulation vis-à-vis du commerce des biens. Parce que le protectionnisme dans une lutte contre le réchauffement climatique, de toute façon, est aussi un outil qui permettra de contenir. Qui peut permettre de contenir l'extension du transport de marchandises, qui est un des aspects, c'est à peu près 20% hein, des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour autant, ce n'est pas une petite question, on ne peut pas balayer ça comme ça, encore une fois, dans un contexte où notamment en Europe, ce qui monte quand même politiquement, c'est aussi les courants de droite et d'extrême droite. Donc on a un train de retard, à mon avis, hein, là-dessus. On a perdu des positions par rapport à il y a 10-15 ans, où le mouvement altermondialiste, je pense qu'on arrivait à signifier qu'on voulait une autre mondialisation, que ce n'était pas le repli sur soi et ce n'était pas une autre mondialisation raciste. Voilà. Et puis sur la question du protectionnisme, dernier élément, je finirai là-dessus, c'est quid des pays en voie de développement. C'est ce qu'ils disent un peu, ça peut être une difficulté, y compris pour la société civile progressiste, mais ce que disent des camarades, enfin des syndicalistes dans des pays en Afrique, dans des pays en Asie, etc., qui disent oui, vous êtes gentils là, on arrête le libre-échange, vous y compris salariés, de fait, vous en avez bénéficié. C'est les multinationales en premier lieu, mais quelque part, vos pays ont ouvert, ont en partie détruit aussi nos économies. Nous, maintenant, on est en capacité de rentrer, pour un certain nombre de pays, hein, capacité de rentrer sur le marché mondial, et ça serait le moment où vous fermez et vous arrêtez. Ou en tout cas, il faut réfléchir à comment on répond. Alors, il y a des réponses hein, techniques, y compris de fiscalité. On pourrait imaginer une taxe carbone qui soit automatiquement reversé à des aides au développement, même si le terme est complètement galvaudé, mais en tout cas des mécanismes de solidarité qui bénéficient pas aux pays du Nord, mais directement aux pays émergents. Enfin voilà, il faudrait réfléchir à des propositions. Alors il y a des tentatives, pareil, ça je pense vous le trouvez sur le site de l'ETEC, sur ATTAC aussi, mais il doit être un peu caché ça. Ça fait un moment, mais il y a eu un travail fait par au niveau européen et même international, puisqu'il y a, au moment du il y a 2-3 ans, c'est les peuples et la planète d'abord soutenaient le mandat commercial alternatif. Ça reste des propositions assez générales, mais voilà, ça soumet aux discussions de qu'est-ce que serait un traité commercial qui soit bénéfique aux peuples. Pour essayer de répondre à cette question, à cet enjeu de quelles alternatives on porte. Voilà.
Non, on va demander au public de poser des questions, des choses comme ça. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est très difficile, parce que l'a souligné Julien, de faire en sorte que de populariser hein, ces questions-là. Puisque même nous, militants, on a beaucoup de problèmes à comprendre tous les enjeux qu'il y a. C'est pour ça que je vous donne des exemples. Vous voyez, le CETA simplement sur l'eau, il y a un certain nombre de choses. Et si je vous donnais ce petit guide, il y a des tas de questions qui renvoient à des tas de choses, etc. Ce qui fait que c'est très difficile d'extraire quelques éléments pour que les gens puissent comprendre. Alors, tout à l'heure, peut-être dans la discussion, je vous citerai un certain nombre de choses, puisque les Français, avec leurs grosses sociétés multinationales dans l'eau, justement, ont fait quand même, ont de l'avance. C'est ce que disait tout à l'heure Julien, hein, puisque Veolia, ex-Vivendi, ex-général des eaux, etc., a demandé, quand la municipalité de Tucumán, en Argentine, a demandé d'arrêter le contrat. Pourquoi elle demandait d'arrêter le contrat? Parce que Vivendi, justifiant d'un certain nombre d'investissements, avait augmenté l'eau de 104%. Donc évidemment, je vous fais le... Eh bien, ils ont perdu, hein, puisque Vivendi, à l'époque, a fait procès, hein, puisque ce dont parlait Julien, il y a cette idée que les sociétés privées peuvent faire appel à des tribunaux d'arbitrage. Or, dans l'ALENA, dans un certain nombre de dossiers de la... D'accord, il y a toujours cet aspect-là. Eh bien, ils ont récupéré hein, de l'argent. Et puis, la région a redemandé à un autre procès. Ils ont reperdu et ils ont encore été obligés de payer, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez quand même que les risques sont énormes. Et l'Argentine, alors là, à un autre niveau, a dû payer aussi 165 millions à une coopérative parce qu'une coopérative de travailleurs avait repris les services de l'eau potable et des eaux usées hein, dans la province de Buenos Aires. Là. Et les exemples pourraient se multiplier. Or, pour l'eau, puisque j'avais un petit peu regardé ça un petit peu plus pour apporter de l'eau au moulin de Julien, dans les clauses dont il vous a parlé tout à l'heure de conditions réglementaires, sur la distribution de l'eau, il y a eu une certaine résistance en Europe et dans certains pays. Mais par contre, il y a tout un tas de petites choses pas très claires sur l'assainissement de l'eau. Si vous regardez votre facture, vous apercevrez que vous payez beaucoup plus d'assainissement que de quantité d'eau consommée. Donc vous voyez que tout ça est très, très, très difficile à comprendre, à expliquer, à sentir les choses et surtout à faire en sorte que nos concitoyens aient conscience de ça avant que ça soit fait, pour faire pression. D'où les difficultés que peuvent avoir les représentants du personnel syndicaux, comme on l'est nous, pour expliquer aux adhérents. Et ça, parce qu'il y a quand même une déficience, il faut bien le dire, des militants politiques, pas tous, vous l'avez compris, pour expliquer ça au commun des mortels. Hein. Les problèmes de l'eau, de la gestion de l'eau, c'est compliqué, etc. Il suffit de lire ce que vous recevez quand vous payez l'eau. Hein. Les petits fascicules qui vous expliquent tout un tas de choses pour vous expliquer que de toute façon, c'est plus cher que l'année d'avant. Hein. Et il y aura ça forcément avec ce genre de problème. Mais bon, maintenant je vous laisse.
Voilà, donc des enjeux à la fois compliqués et larges et très concrets en même temps, hein, qui concernent chacun. Alors aussi bien sur l'analyse des échanges économiques, sur les traités ou sur les actions.
Oui, il y a quand même deux points là, je sais pas, qui ont sensibilisé l'opinion. Hein, quand on se rappelle le poulet au chlore là, qui devait arriver des États-Unis. Et puis la viande aux hormones, là, enfin les bovins aux hormones, c'est ça quand même un petit peu, on a réagi quand même. Maintenant, ce que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il y a un traité, alors où ça en est, mais je crois que c'est déjà signé, entre les États-Unis et les pays du Pacifique, les pays d'Asie. Et qu'est-ce que ça a donné dans la pratique? Est-ce qu'on pourrait se baser là-dessus pour voir un petit peu comment ça pourrait tourner avec ce TAFTA? Et puis l'évolution étonnante de la situation politique, vu que Trump en lui-même s'oppose aussi au traité. Donc comment on peut prendre cette nouvelle information, ce nouveau cadre?
Et en même temps, ça pose la question des alternatives, Trump, hein, parce que le patriotisme tel que l'entend l'extrême droite, c'est aussi les grosses boîtes locales avec qui polluent par ailleurs, etc. La solidarité, les échanges solidaires, c'est peut-être penser en même temps la réorientation des productions locales et dans l'accompagnement d'un autre développement. Enfin, c'est la question des intérêts des firmes qui sont. Donc, tu réponds maintenant ou
peut-être plusieurs.
Est-ce qu'il y a d'autres, Hélène?
Moi, j'étais intéressée sur ce passage de. Je vais retrouver de la liste négative à la liste positive.
Ouais.
Enfin, plutôt l'inverse d'ailleurs.
Ouais.
Historiquement, du coup, c'était. Ouais, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et puis, du coup, préciser finalement les domaines qui étaient dans la liste positive avant, si vous les avez un peu en tête. Et voilà, ceux qui du coup sont aujourd'hui, vous en avez un peu précisé, mais voilà, ça ouvre du coup le champ des secteurs de manière assez phénoménale en fait.
Oui, une petite remarque donc un peu générale. Vous avez donc évoqué les élus qui sont des acteurs censés être importants. Or aujourd'hui, le politique n'a plus aucun pouvoir. On sait que je défonce une porte ouverte, je sais, mais je me permets. Et pour en rester en France et au niveau local, le mode de gestion des services publics, c'est du ressort des élus. Donc les élus locaux décident. Et ils font face à des normes et ils sont dans le cadre des marchés publics. Donc il y a des contraintes, mais le mode de gestion reste du ressort du politique. Et donc tout l'enjeu, je reviens aux remarques de la facture d'assainissement et de l'eau potable, en fait, l'assainissement, et d'ailleurs on peut prendre toutes les villes de France et de Navarre, c'est une norme fondamentale qui vient de l'Europe d'ailleurs, et toutes les collectivités y sont confrontées. Alors ce n'est pas simple effectivement à expliquer, je l'entends. Et puis deuxième remarque, je suis complètement d'accord sur la grande difficulté à faire de la pédagogie. Déjà les gens avertis ont du mal, et le citoyen lambda, c'est difficile d'appréhender tout ça. Et puis dernier élément, une remarque sur la construction de la loi. Là, on est au niveau européen, mais moi je resterai au niveau national. On sait très bien qu'aujourd'hui la construction des lois depuis un certain temps a subi les foudres des lobbying, c'est-à-dire que quand on prend la mécanique de la construction, ça part d'experts, ça part de lobbying, et ensuite c'est voté au niveau du Parlement. Mais le citoyen est rarement associé, et il y a des pistes de réflexion en cours. Si on commence par dire on va faire une loi sur un sujet et qu'on commence à intéresser les citoyens avec des méthodes, hein, on pourra en échanger, ça peut quand même permettre aux citoyens de s'intéresser au sujet, surtout quand les thèmes le concernent au niveau de sa vie quotidienne. Voilà. Donc pour résumer, c'est vrai que le TAFTA, le CETA, c'est assez éloigné, et puis enfin, je ne reprends pas tout ce qui a été dit, mais pour revenir au niveau national et au niveau local, on est dans un monde complexe, on est dans une société en mutation, et c'est vrai que l'association du citoyen, qui est un enjeu fondamental aujourd'hui, est très complexe. Ce qui me paraît important, et je terminerai là-dessus, c'est quand même essayer d'apporter une objectivité à la démonstration, c'est-à-dire donner les arguments de ceux qui font et donner des arguments contraires pour que le citoyen puisse s'approprier l'ensemble des éléments. Puisque pour moi, le vrai citoyen, c'est celui qui a acquis l'ensemble des arguments, les pour, les contre, et ensuite, il se fait son opinion. Voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
On aimerait que ça soit comme ça.
Petite dernière. Ouais, tous les jours, moi, quand j'ouvre ma boîte mail et je sais pas quoi, je suis inondé de pétitions. Et est-ce que la voie pétitionnaire, est-ce que c'est quelque chose, c'est une alternative? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'en signe 260 tous les jours. Je sais pas trop ce que je signe. Mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent, en gros. Voilà. Et puis, des fois, je me retrouve sur le site de Préchi Précha, du Front National. Enfin, je suis un peu perdu. Est-ce que ça, c'est une alternative? Oui, je compte sur toi, Pascal, pour m'expliquer après.
Alors, on fait un premier retour.
Ouais. Bon, il y a des choses sur lesquelles je vais avoir du mal à répondre. Hein, mais... Sur le Transpacifique, l'accord Transpacifique était un accord plurilatéral, pardon, donc qui mettait non pas deux, mais plusieurs, une vingtaine d'États autour de la table. Donc on n'est pas sur le multilatéral de l'OMC, ni le bilatéral du TAFTA ou du CETA. N'a pas abouti. C'est-à-dire que les négociations, et Obama a été un des fervents. Partisans, mais Trump a mis fin à ça. Alors attention, Trump, ce qu'il avait dit déjà avant son intronisation, c'est qu'il était contre les accords plurilatéraux, mais pas forcément contre les accords bilatéraux. Et y compris, il avait dit qu'il était contre le TAFTA, et là, les dernières interventions, y compris des gens autour, sont beaucoup plus mesurées. Son conseiller au commerce dit que cette question-là pouvait être discutée chez eux, mais que de toute façon, dans tous les cas, il fallait attendre les élections françaises et allemandes. Bon. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la même position déjà qu'en novembre et décembre. Bon. Moi, je pense que et c'est là où j'ai du mal à avoir honnêtement les enjeux, ou en tout cas les informations suffisamment un peu solides, mais je pense qu'il faudrait avoir une analyse un peu serrée des tensions entre intercapitalistes, pour aller vite. Des fractions du capital américain liées à la finance, qui a tout intérêt à poursuivre et à poursuivre la libéralisation, et des fractions plus mercantilistes, plus économie de la production, qui peuvent à un moment donné avoir un intérêt à mettre le holà sur la dynamique globalisation. Donc c'est pour ça que est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle période qui serait la fin de la globalisation, de ce qu'on a appelé la mondialisation ouverte au cours de la fin des années 70 ou pas? Je pense que ça, bien sûr que l'acteur société civile, mouvements sociaux, nous, on a un rôle à jouer, y compris pour mettre un terme à cette période. Bon, mais on n'est pas les seuls, on sait bien dans l'histoire, et que les tensions au sein du capital peuvent faire évoluer un certain nombre de choses. Bon. Et que ça, c'est aussi c'est une analyse à avoir, vraiment à avoir en tête pour comprendre la mondialisation et la dynamique de libéralisation, c'est l'opposition entre l'économie de l'échange et l'économie de la production. C'est aussi que l'économie de l'échange a pris le pas en lien avec... Alors, on parle de la financiarisation, mais c'est ça. Hein, c'est des multinationales qui, notamment... sont complètement intégrés avec le système financier et qui prospèrent sur l'économie de l'échange. Ils ne produisent pas. Ben, vous savez que Nike, je crois que c'est 1000 salariés. Apple, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a de la sous-traitance, ils jouent, et y compris c'est de l'échange, et ils jouent sur l'internationalisation de la finance. Et donc ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais parce que je ne maîtrise pas suffisamment. Mais on a une difficulté, alors qu'il y a peut-être un enjeu principal en termes d'alternatives, à mettre l'accent sur la question financière davantage. Financière au sens, ce n'est pas juste les paradis fiscaux. C'est comment réhabiliter la question, par exemple, du contrôle financier, du contrôle des flux financiers. De faire en sorte que on ne puisse plus, il n'y ait plus une liberté de mobilité des capitaux tels qu'aujourd'hui. Ça, c'est Parce que c'est un peu la pierre d'achoppement et c'est ce qui permet aux multinationales de jouer. Plus que sur la question peut-être même du commerce. C'est-à-dire que dans nos mouvements, on met depuis 20 ans l'accent sur la libéralisation du commerce comme le problème premier. Mais que derrière, en fait, ce qui est peut-être central, c'est la libéralisation de la finance. Bon, voilà. Et là, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais ce qui me semble vraiment important, c'est d'essayer d'analyser ce qui est en train de se passer au sein même des secteurs du capital pour comprendre aussi les tenants et les ceux qui sont réticents vis-à-vis des différents acteurs. Bon. Et que fera Trump ? Je veux dire, au vu de son entourage... on a un certain nombre d'éléments qui iraient plutôt dans le sens de la continuité. Voilà, quand on s'entoure de Goldman Sachs et que tout son entourage c'est Goldman Sachs, bon, ça peut plutôt aller dans le sens des intérêts de la finance et de l'économie. Mais effectivement, il a d'autres appuis autour du charbon, autour de l'acier, l'industrie de l'acier, etc., qui eux... ont un intérêt à ce que les frontières se referment. Bon, voilà. Bon, en sachant ce que tu as dit, mais ce que j'ai abordé, qu'on a une vraie difficulté. Voilà, il y a une course de vitesse entre l'extrême droite et une gauche de transformation sociale, progressiste, internationaliste, etc., et qui ne soit pas sur le repli. Sur les listes positives, négatives, juste... Alors, je n'ai pas... j'ai pas l'ensemble des secteurs de la GCS. Les services publics étaient exclus en tant que services publics. Et je reviendrai là-dessus sur les services publics. Ce qui est exclu du CETA, explicitement, c'est pas grand-chose. Hein. Les services fournis dans le cadre d'une autorité gouvernementale. Je vais y revenir parce que là, il y a un flou derrière. Parce qu'on peut se dire, ah ben, l'éducation, c'est... voilà. Mais oui, mais à part que... il y a aussi un secteur privé qui existe. Bon, mais ça veut dire que police, justice et administration, pas pris en compte. L'audiovisuel, c'est la formulation de l'Union européenne, et les industries culturelles. Les services financiers qui sont régulés par le chapitre 13 et 1, le secteur aérien, j'étais assez étonné, mais je pense qu'il y a des enjeux entre Airbus et puis Bombardier. Voilà, mais il peut y avoir des enjeux là-dessus. Bon, les marchés publics, mais avec plein de... Je ne rentrerai pas dans les détails. Bon, voilà. Bon, et alors ensuite, sur la question des services publics, on a une difficulté. Enfin, une difficulté. C'est qu'il y a une spécificité de l'Union européenne. Vous savez bien qu'il n'y a pas de notion de définition des services publics. Si vous vous souvenez des débats qu'il y avait déjà en 2005 sur le traité constitutionnel, on parle de services universels. OK ? Il n'y a pas de services. Alors, l'exception... est accordé donc aux services fournis dans le cadre d'une autorité gouvernementale, ce que j'ai dit, ce qui renvoie aux activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, hein, donc on exclut toutes les activités qui seraient exercées sur une base commerciale, ni en concurrence avec des opérateurs privés. c'est là que ça ouvre un champ de négociation, en tout cas de libéralisation, de plein de secteurs, puisque on a en Europe, et y compris en France, plein de secteurs aujourd'hui qui sont pas protégés, qui sont mis en concurrence avec des opérateurs privés. Bon, et c'est là où il faut aussi mesurer, avoir peut-être nuancé le monstre que serait le CETA ou le TAFTA. C'est-à-dire que l'Union européenne, en tant que telle, a fait 90% du boulot quand même, hein, de libéralisation. C'est quand même l'Union européenne qui a libéralisé le marché des transports ferroviaires, enfin qui libéralise la fourniture de l'énergie, etc., etc. Donc il y a eu plein de marchés qui sont ouverts, bon, et de fait qui sont exclus du, qui sont plutôt intégrés dans les négociations. Mais ça renvoie à la question de la transparence, c'est-à-dire que c'est quand même la DG Commerce, donc la Direction Générale du Commerce de l'Union Européenne, explique depuis deux ans que vous inquiétez pas, tout ce qui relève de l'autorité gouvernementale n'est pas mis en œuvre, enfin n'est pas négocié, ne fait pas partie du CETA. Effectivement, oui, il y a cette phrase qui est en plus au début du, qui le dit. Mais ensuite, il faut aller voir les annexes, le chapitre 12, le chapitre 13, etc., où on comprend en fait la logique et comment on définit. Et qu'en fait, oui, l'éducation, alors, ça ne veut pas dire que le CETA va permettre de privatiser notre éducation publique, mais que ça veut dire que des entreprises canadiennes vont pouvoir s'imposer sur l'enseignement, alors dans des secteurs rentables. Là, en plus, je pense que l'éducation, ce n'est pas forcément le... Bah, si, la formation professionnelle, ça peut être rentable. L'éducation supérieure peut être rentable. La maternelle, je ne suis pas sûr. Mais bon, tu es mieux placé que moi sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, et la question pétitionnaire.
Sur l'eau, je dirais.
Ouais. La question pétitionnaire. Bah, nous, on a travaillé hein, sur, via des pétitions. Alors, ce qui permet aussi au collectif, je vous le dis, c'est aussi de, dans un cadre collectif... C'est ce qui permet d'enclencher une dynamique. Si on en reste à la pétition, en général, ça ne suffit pas. Mais c'est ce qui a permis... voilà, c'est une première action. On permet, grâce à ça, de sensibiliser les gens, d'ouvrir la discussion. Bon, et après, il faut construire des collectifs, agir concrètement, s'ouvrir. Et puis, toutes les actions peuvent être possibles entre... aller, enfin, on ne l'a pas fait, mais franchement, actuellement, on aurait pu faire... la semaine avant le 15 février, d'aller réveiller à 5h du matin l'ensemble des députés européens devant chez eux, quoi. Bon, mais donc, ce que je veux dire, c'est que la pétition, c'est une chose pour ouvrir. Après, ce qui est important, c'est que ça ouvre la mobilisation populaire. Bon, mais là, dans la période, par exemple, on a une réunion ce soir là, à Paris du collectif unitaire Stop TAFTA, où on ne sait plus trop, sur la question du CETA, comment on rebondit. On ne va pas lâcher l'affaire, y compris parce qu'on a gagné des positions, hein, on a fait bouger des lignes. Il y a eu 300 000 Allemands hein, qui sont mobilisés contre le CETA à Berlin. C'est pas rien. En France, je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui en ont entendu parler, des députés qui ont été interpellés, qui ont bougé leur position. Donc on a gagné, on a fait bouger un peu, on a gagné des positions, on a perdu une bataille. Bon, ben là, a priori, ce qu'on va faire au mois de mai-juin, avant la fin des législatives, on verra après notre stratégie, mais ça va être relancer une pétition. Voilà, c'est minimal, mais c'est ce qui permet un peu de refaire parler, de prendre des engagements, y compris de prendre des signatures mail, ce qui nous permet de reproposer des actions un peu plus concrètes dès le mois de juin. Mais voilà. Et d'autant que sur la question du CETA, on a une course de vitesse, là, dans la campagne, entre Le Pen et Asselineau, notamment, hein, qui fait une campagne sur le CETA, voilà, mais sur des bases qui ne sont pas les nôtres.
Je rajouterais juste quelque chose sur l'eau pour répondre aux collègues qui tu disais tout à l'heure, et c'est juste, la Commission européenne n'a pas remis en cause hein, comme ce qu'ils appellent la gestion des services d'intérêt économique généraux dont l'eau fait partie et qui doit rester du ressort des autorités publiques. Mais le problème, c'est que quand on lit la gestion de l'eau ou les articles relatifs à l'eau dans le CETA lui-même, on lit ceci. Droits et obligations relatifs à l'eau. L'article qui est écrit dans un langage juridique très flou, c'est exactement ce qu'on a répété là, stipule que l'eau, dans son état naturel, ne constitue pas une marchandise. Donc, n'a rien à voir avec le CETA. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ça. Mais la définition dont parlaient les services d'intérêt, c'était la distribution de l'eau potable et l'assainissement. Et encore, l'assainissement, je vous ai montré que ce n'était pas tout à fait juste. Mais le problème, c'est que dans l'article, le problème est que presque toutes les utilisations de l'eau nécessitent, impliquent qu'on extrait l'eau de son environnement. Car l'eau, dans son état naturel, n'est pas une marchandise, c'est sûr. Le clin qui coule là n'est pas une marchandise. Mais à partir du moment où on en prend, qu'on le travaille, ça devient une marchandise. Et les langages très flous juridiques dessus permettent et ont permis dans d'autres accords de rentrer et de finalement dézinguer ça. Alors aujourd'hui, l'eau est très souvent sous des syndicats intercommunaux, les autorités publiques ont encore un regard, et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours vrai à travers d'autres éléments, comme je le disais sur l'assainissement. Et c'est ça qui est très difficile à expliquer, parce que le politique dit, mais non, on ne va pas toucher à l'eau, on ne va pas toucher, puisque vous n'en voulez pas, vous l'avez vu avec les gaz de schiste. On ne peut pas exactement le prendre d'usine, mais on peut peut-être faire une petite étude, arriver par... Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est ça qui rend difficile l'expression sur un certain nombre de sujets. Alors évidemment, l'eau, on y est sensible, l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Mais il y a des tas d'autres choses où c'est plus malicieux, où le juridique... Parce que dans Wikileaks, il y avait quelque chose qui était étonnant. À chaque fois qu'il parlait de quelque chose, il y avait le lobby sur la question qui revenait par un autre biais pour essayer de contrecarrer les idées qui auraient pu être négatives à l'avancée des articles du traité.
Alors, j'ai 4 demandes de parole. Donc, la première est ici.
Oui, c'était sur l'opposition que vous faites entre économie d'échange et économie de production. La différence me semble pas si simple, dans le sens où le protectionnisme peut favoriser les entreprises nationales, qu'elles soient à l'étranger ou sur le territoire national, et justement contribuer en fonction des acteurs des marchés internationaux qui seront plus faibles, qui ont moins de négociations, et quand même contribuer à la détérioration de leur marché local. Par exemple, quand vous citez l'exemple de l'Afrique ou bien d'autres pays, ça peut être ça. Donc il me semble qu'il y a plusieurs logiques qui sont en jeu, et que le protectionnisme, ça ne garantit pas nécessairement la protection du citoyen. Donc c'est surtout sur l'aspect économique. Et puis il y avait une deuxième question, c'est sur les modalités en fait les modalités possibles de résistance. Est-ce qu'on s'inscrit dans les modalités juridiques? C'est-à-dire par exemple, c'est pas vraiment une pétition, mais l'initiative citoyenne au niveau de l'Union européenne qui a été une fois où il y a eu 1 million de signatures, mais ça aboutit à rien du tout. Donc est-ce que vous restez essentiellement dans les modalités juridiques ou juridiques? Moi je dis juridique, vous dites légal, oui. Mais voilà.
Légal, c'était ça ma question.
C'était juste à propos de la différence entre la signature des accords États-Unis-Asie, je ne sais plus. Vous disiez entre les États-Unis et plusieurs États. Et donc les États-Unis sont déjà plusieurs États, mais il y a un États-Unien. Et l'Europe, on peut la considérer comme un État, c'est un ensemble d'États. Donc c'est, je sais pas si, est-ce que c'est parce que c'était pas avec l'ensemble des États du Pacifique que vous avez dit ça comme ça. J'ai pas bien compris, ouais. Là.
Sur le légalisme, ma remarque, c'était, ce que j'avais compris, c'était par rapport au démontage du McDo de Millau, qui était une action illégale. C'était par rapport au renouveau de... je crois qu'il y avait une troisième question ici.
Non ? Ah si, c'est pas, pardon, c'était tout à l'heure. C'est que tu avais de la mémoire. Tout à l'heure, j'avais juste une petite question technique. C'était sur les droits de réserve qui avaient été émis par notamment l'Allemagne ou la Suède. Est-ce que quand ils mettent un pays, met un droit de réserve, est-ce que c'est valable pour l'ensemble du traité ou c'est pour chaque pays?
Pour chaque pays.
Pour chaque pays, d'accord. Et du coup, maintenant, dans les questions de comment lutter contre le CETA, est-ce que d'une part les circuits courts, enfin c'est quelque chose qu'on utilise, enfin un terme qu'on utilise pas mal en agriculture. Mais est-ce qu'on peut les imaginer aussi en termes de traitement de l'eau ou d'énergie, c'est-à-dire faire des choses à moins grande échelle Est-ce que ça peut être une façon de contrer ça?
Pas d'autres demandes, si.
Bonjour, c'est plusieurs remarques en vrac, avec une première question. Y a-t-il dans la salle des élus territoriaux, parlementaires éventuellement, ou attachés parlementaires? Mais voilà, surtout quand on cumule les mandats, c'est peut-être pas facile.
Ils sont dans la salle d'à côté.
Mais ça serait l'opportunité d'avoir d'autres sons de cloche que ceux qu'ils peuvent avoir par les fréquentations qu'il y a autour de l'Union européenne ou enfin Bruxelles. Quand on voit le nombre de plaques qu'il y a dans les immeubles autour de Bruxelles, autour du Parlement, c'est assez impressionnant sur le poids du lobbying. Et là, il y avait opportunité pour ça. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est très difficile de pouvoir sensibiliser ou attirer des personnes sur ces débats, sur les enjeux. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas bien nombreux aujourd'hui. Heureusement qu'on a attendu 10h10 avec une vague arrivée. Voilà. Mais j'ai entendu de la part de journalistes il y a quelques années le même commentaire en disant, par rapport à la question nucléaire ou aux questions nucléaires, on nous a fait comprendre que c'était trop compliqué pour pouvoir nous expliquer que vous puissiez après médiatiser ça. Et il disait, on est tombé dans le piège. Et on a laissé faire les nucléocrates donner l'info qui les arrangeait. Et là, je crois qu'il faut faire gaffe aussi à dire, bon, ben non, ça concerne tout le monde, à nous de trouver les moyens de sensibiliser. Alors, ça peut être sur des exemples, et c'est vrai qu'il y a quand même des antécédents avec les procès qu'il y a eu entre entreprises canadiennes, en Argentine, etc. On peut dire, attendez, vos emplois là, que vous nous faites miroiter, parce que ça, c'est un bon argument quand même pour un élu de dire, regardez, ça va créer des emplois. Bilan total, 800 000 à 1 million de moins, solde total. Donc, travailler là-dessus. Peut-être que dans des envois de factures de l'eau, avec les mairies qui gèrent elles-mêmes la flotte, on pourrait leur proposer de mettre en complément un lien vers un site internet qui permettrait de voir les enjeux du TAFTA ou du CETA. Peut-être pas à Poitiers, avec Alain Claes, président de plein de choses, qui va peut-être pas avoir envie que, en tant que copain de Hollande qui a poussé à la signature de ces traités-là, qu'il y ait une information un petit peu plus large sur les enjeux. Moi, je trouve que vous avez bien fait de dire que l'intérêt des signatures CETA-TAFTA est surtout pour les grosses multinationales. Et si on reprend l'exemple du nucléaire, Flamanville actuellement est en construction avec des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants de Bouygues, entre autres, mais il y en a 5 étages de sous-traitance. Et c'est plus de la sous-traitance, c'est de la maltraitance. Et les petites entreprises sont inquiets. Et c'est plutôt des alliés. Ils sont inquiets de la signature du CETA parce qu'ils disent les grosses multinationales qui vont signer les contrats vont nous proposer de ramasser des miettes et ils vont nous mettre la pression sur ce qu'on va pouvoir faire en embauchant du personnel pas cher, pas déclaré, etc. Un autre point, un peu lié à l'histoire de... C'est trop compliqué, on ne va pas pouvoir vous en parler. L'absence de définition des services publics, ou l'absence, c'est plutôt un report de la définition des perturbateurs endocriniens qu'il y a eu très récemment, c'est un très bon argument aussi pour dire on verra plus tard et continuons le rouleau compresseur. Et là-dessus, il faut aussi qu'on soit un peu plus actif pour éviter ça. Et puis dernier truc, Pascal Lamy a invité il y a deux mois à peu près, ça devait être à la mi-février par rapport à la signature, Pascal Lamy était invité à France Inter à la matinale et lui a posé la question, mais par rapport aux enjeux climatiques, comment vous pouvez expliquer que ouvrir les échanges entre les deux côtés de l'Atlantique va être compatible avec la réduction des gaz à effet de serre et donc du réchauffement. Et il a pris l'exemple, il dit oui, mais vous savez, dans certains pays, ils n'ont pas certains produits, donc il faut pouvoir leur fournir exemple. En Arabie Saoudite, ils n'ont pas
tel type d'aliments et il faut pouvoir leur en amener. Et, mais des mecs qui sortent des arguments comme ça en allant parler de l'Arabie Saoudite sur un traité transatlantique, il faut leur emballer, quoi. Mais ça prouve qu'il n'a pas... Enfin, à ce moment-là, en tout cas, il n'était peut-être pas bien réveillé ou les croissants n'étaient pas centrés à la gorge, mais il n'avait pas vraiment d'arguments de l'envergure d'un mec comme Pascal Lamy d'aller parler de...
Ok. Donc,
il a noyé le poisson dans l'Atlantique.
Je prends... Donc, il y aura Sofiane qui est là, puis ensuite Laurent.
Non, mais sur Pascal Lamy, je pense que le climat est quelque chose qui le dépasse. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il n'a pas travaillé son argumentation. C'est quelqu'un d'intelligent, hein. C'est bien notre problème, hein, c'est qu'en face, on a des ennemis qui sont des adversaires, qui ont oublié d'être bêtes. Donc, mais là, sur cette question-là, je pense qu'il n'a pas... Voilà, on le sent bien, sur la question climatique, ils ont un train de retard. Bon, mais en termes d'argumentation, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est en dehors de leur logiciel, quoi. Donc, ce qui l'amène à dire des âneries comme ça. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas un journaliste pour le rembarrer, quoi. C'est, bon, ce qui est quand même un gros souci. Bon, bref. Mais je pense que, oui, l'enjeu de la préservation de la planète, qui parfois peut-être en France pour certains est encore un enjeu théorique, mais. Je ne sais pas si vous savez, en 2016, le nombre de migrants climatiques est supérieur au nombre de migrants liés aux guerres. C'est-à-dire que le réchauffement et le dérèglement climatique, c'est une réalité, notamment en Océanie, notamment dans les pays du Sud, etc. Donc, un peu plus loin de nous. Mais bon, donc, cette question-là, il faut, à mon avis, qu'on l'articule davantage avec la question... notre lutte contre le libre-échange, parce que ça va de soi, et y compris parce que ça nous amène à travailler autrement sur voilà, notre modèle, notre société alternative, quoi, notre projet de société qui soit tourné vers la satisfaction des besoins sociaux et environnementaux. Et ça, automatiquement, ça fait le lien avec la question des circuits courts, par exemple. Bien sûr qu'il y a besoin de relocalisation, etc., etc. Bon, y compris de relocalisation, tout en articulant ça avec la question de la redéfinition de nos besoins et de nos productions, voilà. Bon, sur les enjeux environnementaux. Juste sur Union européenne, États-Unis sont des entités juridiques. L'Union européenne, via ses traités, le traité de Lisbonne, mais c'était le cas avant, a la compétence du commerce. Ce n'est plus la France. Donc il y a une délégation, voilà. Alors, ce qui fait que, parce qu'il y a tout un enjeu pour la commission, pour la petite histoire juridique, de la définition de la nature des traités. La commission fait tout pour que ces traités, il y a un truc juridique qui prend des mois sur un traité Union européenne-Singapour, parce que la commission européenne veut essayer de faire la démonstration que c'est un traité qui soit non mixte, c'est-à-dire 100% commerce. Si c'est 100% commerce, si c'est-à-dire que les juristes font la démonstration que ce traité ne concerne que des enjeux commerciaux et pas des enjeux politiques, sociaux, etc., alors la ratification sera uniquement via les instances européennes, c'est-à-dire le Parlement européen, parce que c'est dans les traités. Non mais c'est oui, enfin il y a plein de choses. Enfin non mais on est d'accord sur le fait que ce soit n'importe quoi, mais il s'appuie quand même sur un certain nombre de lois européennes qui on peut estimer qu'elles soient inconsistantes, indigentes, etc. Mais qui existent. Sur le traité Union européenne Canada, la Commission européenne a cherché à tester en disant oui mais regardez enfin bon voilà je vous passe les détails mais en cherchant à dire que c'était un traité non mixte, c'est-à-dire qui n'était que de sa compétence commerciale et donc pour éviter qu'il y ait ratification, ils ont perdu. C'est ce qui fait que c'est un traité Union européenne Canada considéré comme mixte, pas uniquement commerce, donc ça va passer devant les parlements nationaux, voilà, c'est-à-dire que les États doivent ratifier. Bon, mais encore une fois, ce que je vous ai dit, hein, ils n'ont pas besoin de ratifier pour qu'il soit mis en application. Bon, mais sur le Pacifique, c'est différent puisque c'était une vingtaine de pays. Donc il y avait le Japon, il devait y avoir... non, il n'y avait pas la Chine. Mais non, parce qu'il n'y avait pas la Chine. Parce que si vous, vous voyez ce que je disais en intro, c'est que l'enjeu géostratégique, il est clair. Quand on négocie d'un côté le TAFTA avec l'Union européenne et de l'autre côté avec les pays d'Asie du Sud-Est... Donc il devait y avoir le Vietnam, il devait y avoir la Thaïlande, etc., etc. Enfin, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et le Japon. Bon, vous avez là, vous encerclez la Chine. Enfin, vous encerclez, vous créez en tout cas un marché qui permet, et vous êtes en plus au centre. Bon, donc les logiques impérialistes, elles existent encore. Hein, voilà, donc il faut l'analyser. Mais voilà pourquoi le traité transpacifique... était un traité plurilatéral, alors que le traité États-Unis-Union européenne est un traité bilatéral, même si je suis d'accord avec vous que l'Union européenne, c'est plusieurs États, mais plusieurs États qui ont une entité, qui sont dotés d'une entité juridique, Union européenne, qui négocie. À l'OMC, aujourd'hui, il n'y a que à l'ONU, hein, où les États... Mais à l'OMC, c'est l'Union européenne qui négocie. C'est plus les différents États. Bon, tac, 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 circuit court. Ouais, faire des choses à moins grande échelle. Je sais pas comment prendre. Moi, je pense qu'il y a. Comment dire, non, sur la question de l'agriculture, ou en tout cas, c'est peut-être sur la question des alternatives. C'est comment on arrive à construire des alternatives locales. Et vous donniez l'exemple. De l'énergie. Bon, par exemple, des centrales villageoises, etc., qui se mettent en place et qui sont des choses assez intéressantes. Bon, alors, je ne dis pas que les traités de libéralisation vont empêcher cela, mais il va falloir faire attention à ce qui se passe à l'échelle macro pour aller à l'encontre des initiatives citoyennes comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on sait aussi comment nos opposants regardent notre capacité à contourner et à créer et à chercher à marchandiser ou à récupérer ou à empêcher les espaces d'émergence, de gratuité, de coopération, etc., qui ne vont pas dans la logique marchande. Bon, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est des points d'appui réels qui nous permettent de montrer qu'un autre monde est possible à l'échelle locale, etc., et puis de voir comment on peut aller plus loin. Bon, voilà. Mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, mais ça, c'est plus un débat plus stratégique d'une manière générale. C'est comment on articule nos alternatives locales et un projet plus global voilà, qui nous permet d'articuler. Voilà. Et comment on arrive à travailler ça. Bon, voilà. Après, juste deux choses sur... est-ce que c'est... Je me suis mal exprimé. C'est pas tant que c'est trop difficile. Il y a une dynamique hein, sur la lutte. Il y a eu une dynamique sur le TAFTA. Je veux dire, il y a eu... qu'il n'y a pas plein de monde, mais un mercredi matin il y a du monde et puis vous êtes plein à prendre la parole, à avoir des choses à dire, etc. Et on l'a vu depuis 3 ans dans plein de bleds, plein de réunions sur le TAFTA ou sur le CETA où c'était blindé, enfin où il y avait 100-200 personnes dans un village ou dans un, voilà, parce que ça intéresse. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis le combat sur l'AMI, quoi. Hein, donc ça faisait 15 ans sur les questions de libre-échange. On n'avait pas vu un tel intérêt, une telle mobilisation. Pour autant, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en face, mais c'est vrai avec toute la novlangue, enfin, je veux dire, en face, ils font tout pour nous rendre les choses compliquées. Voilà, mais ça paraît, j'enfonce une porte ouverte. Mais je trouve à un point d'ingéniosité qui parfois m'impressionne. Ils ont une capacité à inventer des contre-feux. Hein ? Mais ils sont payés à plein temps. Mais ce qui veut dire... Mais c'est ça qui est important. C'est que, parce que c'est la même chose, je pense, syndicalement, pour avoir les mêmes débats sur comment on est aspiré par la multiplication de ces instances de discussion, d'élaboration, etc. Et ce qui leur permet de nous occuper, et on le voit dans les entreprises, etc., hein, oui, quelque part, c'est un peu d'argent pour eux, mais c'est ce qui leur permet aussi de nous épuiser et puis de construire des contre-feux. Bon, là, on voit bien qu'on a une difficulté à rendre. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas fait. J'ai vu que tu avais le petit guide d'attaque. Attaque a fait un gros boulot là-dessus. Au niveau européen, on a essayé de faire des petites vidéos.
Tout est dit.
Voilà, et on a mutualisé, on a construit, y compris des liens entre différents réseaux. Qui permettaient de mutualiser. Mais pour autant, ça reste un sujet qui n'est pas simple. C'est la même chose avec le traité constitutionnel européen. Voilà. Je m'arrête là, mais je n'ai pas oublié votre intervention, je vais y revenir.
Alors,
en conclusion.
1, 2, 3, puis on verra.
Peut-être dernière. Ah oui, et puis il y avait les modalités référendum, j'y reviendrai. Hein. J'ai oublié, mais
oui, donc je risque de ne pas pouvoir entendre toute la réponse, je m'en excuse par avance, je dois aller chercher mon fils à l'école, mais je pose quand même la question. Veolia peut attaquer un État et donc s'adresser à une instance arbitrale. Et je me demandais quelle était, sur le plan juridique, la validité des décisions de cette instance et donc ce que ça peut valoir, est-ce que ça peut résister devant un tribunal public, lequel, quels sont les recours possibles. Est-ce qu'on a des exemples de ça? Voilà.
Non, tu parles.
Oui, bonjour. La question du langage, en fait, pour pouvoir penser le monde de manière un petit peu différente, a été un petit peu abordée, quoi. Mais comment est-ce qu'on fait? Enfin, je vais revenir. Bon, comment est-ce qu'on fait à partir du moment où dans les écoles, mais dans les écoles publiques, quoi, c'est pas précisément là qu'on apprend à penser le monde de manière très critique, enfin en tout cas à ce niveau-là, si j'ai bien compris les logiques et le vocabulaire entrepreneurial, capitaliste, commence à s'instaurer, enfin voilà, on est lycéen, on doit créer des micro-projets d'entreprise, enfin voilà, tout ça, quoi. On a eu une AG hier à la fac voilà, pour parler un peu de la manière dont pardon, dont les logiques entrepreneuriales sont aussi présentes dans les conseils d'université et où il y a certains défis fonctionnement démocratique. Enfin, voilà, c'est, démocratiquement, les instances fonctionnent pas très bien, ce qui fait que on se retrouve à avoir dans les licences de sociologie, quoi, de sciences humaines, quoi, des modules où on apprend aussi à s'approprier ce vocabulaire-là. Si j'ai bien compris, il se pourrait que dans les années qui viennent, les diplômes disciplinaires se transforment en fait en diplômes dans lesquels on apprendrait des compétences et plus des savoirs critiques, justement. Est-ce que c'est pas... et encore, là, je parle uniquement des gens qui ont la chance de faire des études, quoi, parce qu'il est bien évident que quand vous quittez le système éducatif sans diplôme, on vous met aussi dans tout un tas d'institutions où vous allez... où déjà on vous fait culpabiliser, hein, c'est de votre faute complètement, pas de la faute du système si vous n'avez pas de boulot, et on vous apprend tout un vocabulaire. Enfin voilà, je veux dire Pôle emploi, machin, bon, bref. Les logiques de concurrence dans un contexte de chômage structurel, ben, fait que même si vous appartenez à une entreprise, faire de l'éducation citoyenne et populaire dans les entreprises, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est pas non plus très facile, quoi. Je veux dire, est-ce que l'avenir est pas méga... Enfin, là, le problème de mobilisation, ce qui pose problème là dans l'organisation de mobilisation, c'est effectivement la complexité des problèmes, quoi. Mais le truc, c'est que est-ce que tout ça va pas faire que demain les gens, c'est même pas le problème de la complexité qui va leur poser souci. C'est juste que ils vont juste pas avoir envie du tout. Enfin, ils vont rien comprendre, quoi. Quoi, on peut penser le monde autrement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, non, je ne crois pas, quoi. Bah, je pense aussi, oui. Et zut, et du coup, je sais plus ce que je voulais. Ouais, est-ce qu'on va pas arriver juste à une situation où manifester la liberté d'expression, se mobiliser, ça voudra pas juste dire, voilà, comme c'était le cas pour Charlie, descendre une fois dans la rue, ou quand on a vu l'image du petit gamin là, mort sur la plage, voilà, est-ce que ce sera pas juste, ça va pas se résumer à manifester ponctuellement son indignation contre des situations? Ben voilà, je suis désolé, c'est pas très bien exprimé et c'est pas très gai non plus. Mais enfin,
ouais. Merci de tes encouragements. je rajoute deux points qu'on a évoqués au début, mais sur lesquels on n'est pas revenu. D'une part, sur l'éducation, peut-être voir quand même.
sur les crèches, par exemple, c'est possible d'investir. Sur les cours particuliers, on a déjà des gros trusts et on pourrait en avoir qui viennent du Canada, par exemple. Sur les écoles de commerce, voire des IUT privées, voire des très grandes écoles. Alors, nos grands oligopoles, très soutenus par les nouvelles politiques de la recherche, Sciences Po Paris, HEC, etc., occupent le terrain, mais pourraient être concurrencés demain. Bon, c'est peut-être pas le problème principal, mais en tout cas, dans un tas d'autres secteurs où les gens seraient prêts à payer pour avoir des formations supérieures, techniques ou commerciales, là, il y aurait sans doute des risques possibles, parce qu'on sait que c'est déjà le cas pour les écoles de commerce, par exemple, où c'est très, très marchandisé en France. Donc, ça pourrait encore se développer. Je voulais revenir aussi sur l'aspect proprement politique et sur la lutte qu'on peut opposer à ces politiques commerciales d'échange. Le risque que moi, je vois dans le débat... dans le débat public autour de ces questions-là, avec la montée des courants d'extrême droite, Trump, etc., c'est qu'on se trouve acculé à une position, et au fond, Macron représente assez bien cela, c'est qu'on serait acculé à une position où soit on ferme, soit on ouvre. Soit on est du côté de la fermeture, et bon, un peu du côté des ouvriers, du côté de la vieille industrie et des racistes. Soit on serait du côté de l'antiracisme, de l'ouverture, etc. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment une... Je pense que c'est faux et qu'on a une bagarre par l'exemple à mener. Si on prend l'exemple de l'agriculture, je ne pense pas que les peuples caribéens aient un intérêt à ce que la banane soit le seul facteur de développement de la richesse locale, parce qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la banane aux Caraïbes, ça fait partie de leur tradition, de leur capacité, et pourquoi pas d'exporter. Mais il y a un intérêt écologique, social, évident à ce qu'une autre culture de la banane se développe, à côté d'une polyculture vivrière et qui redonne des marges aux circuits locaux, du point de vue agroéconomique, etc. Et nous, on n'a pas non plus intérêt à bouffer que de la banane de basse qualité et des tomates en hiver ou des poires, comme on le voit, y compris à la Biocoop, qui viennent de Hollande, etc. On n'a pas intérêt. On peut développer la betterave, le radis, etc., puis manger des bonnes bananes de temps en temps. Donc ça ne représente aucun intérêt pour nous et ça ne représente aucun intérêt pour eux. Donc la question, c'est de comprendre que l'économie, ça se construit, ça se discute. Ça relève d'intérêts, ça relève de possibilités économiques, mais qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans. Donc, voilà. Et puis sur d'autres exemples, sur l'énergie, je pense qu'on n'est pas obligé de défendre dos au mur nos vieux oligopoles pour lutter contre les nouveaux oligopoles. L'électricité, par exemple, en France, EDF est à la fois un atout, un service public qui intervient avec de la solidarité quand il y a des arbres qui tombent, les gens qui font attention, les salariés, les syndicalistes d'EDF qui font attention à développer des politiques sociales contre les coupures, etc. etc. Ça, c'est le côté positif qu'il faut défendre. Après, on peut lutter contre le fait que EDF s'oppose au développement de la production et de la consommation locale d'électricité. Parce que là aussi, il y a dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure. Mais partons de nos besoins concrets et de la manière d'y répondre. Et en fait, on a des moyens de répondre à ce piège que l'on veut nous tendre de plus en plus. Est-ce qu'il y a une dernière ? Il y avait le monsieur là-bas.
Un petit peu pour, comme il a dit, sur est-ce que la réflexion s'inscrit dans le cadre de l'économie conventionnelle ? Et si oui, est-ce que c'est dans une perspective de transition ou dans une perspective de réformation de cette économie ? Conventionnel, parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais il y a plusieurs visions de l'économie. Et ensuite, pour la complexité des questions, je dirais que par exemple, l'exemple de la banane, ça l'illustre bien, parce que localement, on va dire en Guadeloupe et en Martinique, il y a des forts taux de chômage. Et finalement, la banane, c'est surtout des descendants de colons, des béquets, et que ça ne profite pas à la population locale. Donc finalement, il y a la question de manger de la bonne banane, et il y a la question aussi de la survie, enfin pas la survie, j'exagère, mais de la vie de la population locale. Donc est-ce que la population locale a même choisi de cultiver de la banane dans cette quantité. Il y a là, donc juste pour. Et après, un autre aspect, c'est sur le poids des acteurs de production, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, même si, enfin, pour les entreprises publiques, ou, enfin, plus publiques, mais EDF ou certains monopoles où l'État garde une certaine part dans le budget de l'entreprise, c'est plus facile. Mais pour d'autres entreprises privées, ou par exemple, on pourra avoir l'impression d'avoir une entreprise française, mais qui a une multitude de filiales qui ne respectent pas les mêmes règles. Finalement, on pourra avoir l'impression que consommer local, c'est une bonne chose, mais sans savoir d'où vient ce local-là. Sans savoir d'où vient le local, c'est-à-dire que ce sera une entreprise qu'on va identifier comme locale, mais qui aura pu être rachetée, un petit peu comme dans la pluralité de l'information qu'on nous dit, ou finalement, quand on remonte au bout, on voit qu'il n'y a pas de pluralité, enfin, il n'y a pas une si grande pluralité, du moins, de l'information.
Eh ben, je pense qu'on peut vous donner la parole pour le dernier tour à tous les deux.
Moi, je reviens juste à toi par boutade. Tu parlais du désert, mais je te dis, on ne dit pas « j'ai pas de boulot ». On dit je ne suis pas en capacité d'employabilité. C'est-à-dire qu'on te renvoie à ta propre... Tu es victime de toi-même, en fait. Et malheureusement, dans tous les textes, ce n'est que ce genre de discours managérial dont je pense on parlera peut-être à un autre moment. Pour ce qui était de... Moi, je voulais répondre sur ça. Le mécanisme de coopération réglementaire et les accords de libre-échange de CETA fournit aussi un cadre juridique, hein, dans des tribunaux particuliers d'arbitrage privé, ISDS, ICS. Hein, je ne sais pas d'ailleurs exactement ce que ça veut dire, mais c'est noté sous cette façon-là dans les textes. Et ce qui fait que les sociétés transnationales peuvent faire état, écoute bien, de leur opinion négative sur toute réforme législative progressiste propre à léser leur intérêt. C'est-à-dire, c'est comme ça que Vivendi s'est fait. Mais c'est écrit, ça. Ça veut dire que, quelque part, la coopération réglementaire peut empêcher tout débat sur des mesures d'intérêt général, simplement parce que, dans le CETA, il y a la possibilité de faire appel à un tribunal arbitral, comme ça existe dans le sport international, pour justement dépasser le cadre de la législation nationale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits aspects-là qui font qu'il sera très difficile de rentrer dans ces mécanismes. Et je vous signale quand même qu'il y a les meilleurs avocats du droit international sont, hein, à Business Europe, c'est-à-dire chez les lobbyistes, bien entendu.
Ok. Bon, je vais terminer rapidement. Juste avant que vous partiez, Veolia, les recours juridiques. En fait, alors, qu'on soit bien d'accord, hein, Veolia ou toute multinationale peut porter plainte contre un État lorsqu'il y a eu un accord qui cadre l'ensemble des relations. Hein. Donc, maintenant, Veolia peut le faire vis-à-vis du Canada, notamment c'est dans le cas d'investissements qui ont été réalisés et qui, par des législations, vont être estimés comme remis en cause. Bon. Dans la réalité, parce que je vous ai donné quelques chiffres, et je pense que c'est bien la question que vous me posiez, c'est qu'en fait, dans la réalité, les États payent peu. C'est-à-dire que, mais ça va être des dispositifs, ça va prendre des années, alors c'est très très lucratif pour les avocats d'affaires, hein, parce que voilà, c'est un vrai métier, mais ça a un vrai effet prophétie autoréalisatrice, cette histoire-là, en fait. C'est que ça contraint. De toute façon, l'ensemble de ces juridictions, par exemple, sauf erreur de ma part, il me semble que le procès Vattenfall contre l'Allemagne est toujours en cours et que il serait bien. Donc, ça fait déjà 5 ans et que plusieurs experts disent qu'ils vont se mettre d'accord sur des sommes. Alors, ça sera peut-être des millions, des choses comme ça. Ça a un coût, mais c'est pas tant l'enjeu financier que la pression que ça exerce politiquement. C'est en ça où voilà, ça a une fonction. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas non plus un coût économique, hein, mais ça a aussi cette fonction de pression politique et idéologique, de menace contre des politiques. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur... Alors, je ne sais pas si c'est en lien, si on s'est mal compris. Je ne veux pas dire que la question du protectionnisme en soi serait une solution. Je reviens sur la question économie d'échange, économie de production. Je vous donne cette clé, on pourrait le formuler autrement, simplement pour essayer de comprendre aussi les dynamiques internes au capitalisme. De penser le capitalisme comme une dynamique qui n'est pas forcément homogène, avec des intérêts contradictoires à l'intérieur. Bon, c'est toute l'histoire du capitalisme. Où on a, on pourrait l'appeler un capitalisme productif versus un capitalisme financier qui n'aura pas forcément intérêt aux mêmes politiques, y compris aux mêmes politiques économiques, etc. Et parfois des conjonctions d'intérêts. Il y a une conjonction d'intérêts vis-à-vis des politiques qui ont été menées par l'Union européenne en termes de réponse à la crise économique en 2008, conjonction d'intérêts entre le capitalisme allemand plus productif et exportateur vis-à-vis d'une le maintien d'un euro fort, etc., favorable à leur, leur économie enfin, et à leur mode de développement, et la fraction du capital français plutôt ancrée dans la finance, les assurances, etc. Bon. C'est-à-dire que le couple Merkel-Sarkozy, c'était pas juste une alliance politique, ça révélait des dynamiques du capital. C'est juste ce que je veux dire par là, et essayer d'avoir cette grille de lecture pour voir ce qui peut être en train de se passer vis-à-vis du libre-échange. Essayer de comprendre au-delà de simplement c'est Trump, parce que derrière Trump, c'est aussi des forces sociales, quoi. Donc essayer de voir quelles sont les forces sociales à l'œuvre qui guident aussi les politiques et les prises de décision. Voilà, je pense que Trump peut dégager très vite si à un moment donné il s'oppose. Hein. Enfin, voilà, l'histoire a montré qu'il y avait, enfin voilà, même la capacité parfois à éliminer un président. Voilà, il peut mourir aussi. Hein. Non, mais, enfin, je dis pas qu'on en est là, mais ce que je veux dire, c'est que Trump, il sera.
Non, mais il peut mourir politiquement.
Non, c'est que faisons attention ensemble à pas avoir une lecture des dynamiques politiques juste institutionnelles. Voilà. Et sans, en oubliant les forces politiques, etc., et les contradictions qu'il peut y avoir et qui peut exister. Ensuite, le protectionnisme en soi n'est pas forcément une solution. Je dis pas que le capitalisme, ou alors qu'il y aurait un mythe des 30 glorieuses dans une économie un peu plus fermée, même si elle n'était pas complètement fermée, où il n'y aurait pas eu d'exploitation, d'aliénation, de violence au travail, d'enrichissement d'une minorité sur, par le travail de la majorité, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Mais que face au libre-échange, ce que je pointais juste, c'est qu'on était, mais c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'on est pris en tension sur... mais vous voulez vous refermer, vous voulez fermer les frontières, vous voulez, enfin voilà, c'est renvoyer, parce que quand même la liberté c'est cool, quoi. Et le libre échange, vous comprenez, enfin c'est quand même sympa, cosmopolitisme, etc. Voilà, c'est chouette. Bon, donc on est renvoyé du côté de l'archaïsme, tandis que les autres sont modernes. Il faut qu'on arrive à casser ce couple-là. Bon, et je pense que par l'expérience, c'est ce que je disais sur notre volonté au collectif Stop TAFTA, mais je pense que ça se construit ailleurs, c'est de ne pas perdre le vue de l'action internationaliste concrète. C'est de mener des actions ensemble. Nous, voilà, on a une partie des finances a été pour payer des billets d'avion à des syndicalistes et des militants canadiens, parce que pour nous, c'était important qu'ils viennent prendre la parole, enfin, qu'ils fassent une tournée de meeting et qu'ils parlent à côté de militants français en disant... Sur le CETA, on a des intérêts communs et c'est ensemble. Et donc, ce n'est pas pour des raisons de repli sur nous, etc. Bon, voilà. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on le mette en œuvre sur tous les enjeux autour du libre-échange et de manière un peu plus accrue. Et dernière chose sur les modalités juridiques, je finirai là-dessus parce que ça peut être une perspective. Je le dis, moi, personnellement, je suis assez réticent et d'un autre côté... Je suis pour qu'on teste toutes les possibilités. L'ICE n'a pas fonctionné, donc le mécanisme en fait, qui a permis quand même de récolter 1 million de signataires en Europe pour interpeller la Commission européenne pour qu'une question soit posée, etc. Mais en fait, il y a plein de dispositifs. Enfin, ils sont malins en face, hein, donc, voilà, qui leur permettent de contourner. Et de fait, la Commission a pu... faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. je sais plus, je crois qu'il y a eu quand même une erreur aussi dans la formulation telle que c'était posée, etc. Mais bon. Il y a un autre dispositif qui peut être, enfin certains acteurs là, au collectif disent ça peut être une solution pour faire échouer le CETA au niveau national, c'est le référendum d'initiative partagée. Disposition mise en œuvre, ou en tout cas le décret est sorti en 2015, c'était un truc d'une, je crois que c'est Sarkozy qui l'a proposé en 2008. C'est très compliqué, il faut 25% de parlementaires, donc déjà ça fait, j'ai compté, ça fait entre 180, on verra combien s'ils réduisent ou pas, mais je pense pas, enfin c'est autour de 185 parlementaires, donc sénateurs plus députés. On ne sait pas quelle est la composition de la Chambre des députés au mois de juin, hein, mais les 185, ce n'est pas gagné. Et après, 4 millions de signatures françaises en 9 mois. C'est, 180, c'est 20%, c'est un cinquième des parlementaires, donc députés plus sénateurs. Mais les sénateurs anti-CETA, je ne sais plus, on avait fait la liste, il y en a moins de 10 sur là. Alors, on peut mener à. Voilà, on peut aller. Faire des concerts de casseroles en bas de à 5 heures du matin pendant un mois, peut-être qu'ils vont signer au bout d'un moment, mais ça va pas être simple. Et puis 4 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales avec un dispositif un peu compliqué, etc. Bon, bah, tout est fait pour pas qu'il y ait voilà. Et une fois que si on arrive à faire ça, c'est ce qui permet d'initier non pas un référendum mais un projet de loi, un projet de loi de référendaire. Vous voyez le truc. Bon, après l'enjeu, l'intérêt, c'est pas tant que ça analyse, mais de continuer à leur mettre la pression, voilà, de les bousculer et de pas les lâcher. Bon, à un moment donné, c'est aussi comme ça qu'on gagne, hein. Oui, on a plein de difficultés, on sait qu'en face ils sont puissants, mais pour autant, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a des contradictions qui existent au sein du capitalisme. Et ça, enfin, voilà, ça veut dire qu'il peut être plus fragile que ce qu'on pense. Il y a une crise politique dont on n'a pas discuté, mais qui est majeure. Et y compris, ça participe, à mon avis, qui est alimentée par ces 30 ans d'ultralibéralisme et cette dépossession démocratique de la population. Ça, ça les fragilise. Hein, vous connaissez la formule. Hein, quand ceux d'en haut ne peuvent plus et que ceux d'en bas ne veulent plus. Bon, alors la question, nous, c'est de faire en sorte que ceux d'en bas ne veulent plus et puis de construire cette mobilisation pied à pied, pierre par pierre. Voilà, donc nous, on lancera, je pense que la décision sera prise ce soir, une forme de pétition ou d'engagement citoyen à continuer à se mobiliser, etc., pour cette période. Mai-juin et puis fin juin, quand on verra le Parlement, qu'on verra plus clair aussi dans la situation politique française, il faudra qu'on élabore une stratégie pour mettre un terme au CETA. Et j'en ai pas parlé, mais il y a, enfin je l'ai évoqué en parallèle, il faudra qu'on continue à travailler sur les autres traités de libre-échange qui sont dans leur valise, le Japon, les États-Unis qui peuvent revenir et puis les aléas avec un certain nombre de pays d'Afrique.
Et en proposant, voilà, des alternatives aussi.
Et bien entendu en proposant des alternatives, voilà, pour un projet de transformation sociale. Merci en tout cas à vous.
Merci à tous les autres. Juste une petite pub. Ça vient de sortir aujourd'hui, puis ça fait partie du sujet. Hein, l'actualité Nouvelle-Aquitaine, qui a remplacé l'actualité Poitou-Charentes, qui est rédigée par un vieux camarade à nous, a fait un numéro spécial « Que mangeons-nous, comment ?». Et dedans, il y a des articles absolument superbes, 5,50 €, avec des interviews de gens très intéressants. Donc, je vous propose, avant de repartir ce soir, de passer au guichet, là-haut. Voilà. Et je vous souhaite bon appétit et bonne journée. Et on se retrouve...
À 14 heures.